Sur Radio Craponne, nous recevons nos avocats. Nous avons avec vous, avec nous, ce matin, Maître Chamar Kabibel. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons Maître Bonnet. Bonjour.
Bonjour.
On en parlait au début de l'émission tout à l'heure, hors antenne. C'est vrai que je reçois beaucoup de charmantes jeunes femmes tous les matins. C'est un métier qui se féminise. Là aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'avocates sur le puits. Hein.
Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une. Les dernières arrivées sont essentiellement féminines, mais.
D'accord.
Lorsque nous avons des avocats masculins.
Vous les chouchoutez alors,
hein ? Nous les chouchoutons.
D'accord, voilà. Alors on va parler aujourd'hui, on va introduire le sujet, comme on dit, donc ce sujet du jour sur la séparation de deux personnes et donc des conséquences sur le patrimoine et sur les enfants. Maître Bonnet, séparation, ça veut dire quoi ? Alors, il n'y a pas que le mariage de nos jours, on peut être séparé, on peut être en différentes situations.
Oui, effectivement, le mariage a été longtemps le principe du couple.
Oui.
Aujourd'hui, l'évolution des mœurs fait que vous avez le concubinage, qu'il soit déclaré ou non, et bien évidemment le pax qui permet effectivement de donner un certain formalisme à l'union, mais qui ne va pas jusqu'au mariage et ses conséquences qui sont essentiellement déterminées dans le code civil. Et c'est vrai que les séparations aujourd'hui dans des couples dits libres ou pacsés sont venus se rajouter, et en fait ce sont les règles légales habituelles ou on va dire de principe qui s'appliquent à une situation qui n'avait jamais été visée auparavant sur le plan juridique, et notamment dans le code civil qui date de 1804.
Donc il y a eu des aménagements, des rajouts j'imagine dans le code civil ou... Parce que depuis 1804, où il n'y avait que le mariage qui était vraiment légal, que... Non, Maître Chamar Kabibel.
Bien sûr, le code civil sans arrêt évolue, et on a ce qui est d'ailleurs notre grand problème à nous, parce qu'il faut effectivement que nous soyons informés de chaque législation, et notre profession est en constante évolution.
Plus la société évolue.
Tout à fait, on est face à une multiplication de textes, et c'est le problème aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'effectivement nous soyons au courant et nous soyons adaptés pour appliquer chacun de ces textes.
Voilà, et bien comme d'habitude, le mieux finalement, ça sera de partir de questions que nous ont déposées nos auditeurs, la semaine dernière et les semaines avant, pour parler un petit peu du sujet, et puis si vous avez bien sûr des choses à dire autrement. Alors, qui veut répondre à la première question ? Là, je vous en soumets une. Donc, nous vivons en concubinage depuis 5 ans et nous avons acheté un appartement. Que devient-il si nous nous séparons ? Il y a des gens prévoyants.
Alors, effectivement, dans la mesure où il s'agit d'un concubinage, nous ne sommes pas dans le cadre d'un mariage, bien évidemment. Donc, quand les concubins achètent un bien, on estime que ce bien est indivis. Alors, c'est-à-dire que deux concubins l'achètent dans le cadre d'une indivision. Oui. Cette indivision, les gens ne sont pas tenus toute leur vie de rester dans cette indivision. C'est-à-dire que, en cas de séparation, on peut sortir de cette indivision. Alors, soit on sort, je dirais, amiablement, en bonne entente de cette indivision. Nous n'avons pas besoin d'avoir recours à un juge. Les concubins qui souhaitent se séparer et qui souhaitent donc sortir de cette indivision vont directement chez un notaire pour mettre fin, effectivement, à cette indivision qui a existé entre eux. S'il n'y a pas d'accord, s'il y en a un des deux qui ne souhaite pas sortir de cette indivision, nous avons un article du Code civil qui est l'article 815 qui nous explique que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Et dans ce cas-là, un des deux concubins prend l'initiative et intente une action judiciaire pour saisir le juge pour sortir de cette indivision. Et le juge ordonnera la liquidation de cette indivision contre la volonté de celui qui souhaite rester en indivision.
D'accord. Oui, c'est-à-dire, ça je ne savais pas, que à la limite les gens se séparent, mais ils peuvent conserver l'appart ensemble.
On peut rester en indivision s'ils le souhaitent toute leur vie.
Voilà.
Par contre, dès lors qu'il y en a un des deux qui ne le souhaite pas, on saisit le juge. Il faut savoir que cette saisine du juge se fait par une action judiciaire et que le ministère d'avocat, c'est-à-dire l'assistance d'un avocat, est obligatoire.
Voilà, là on tombe sur le coup, c'est la justice qui tranche bien évidemment, car il y a un petit problème. Alors, deuxième question.
Je crois que ma consoeur voulait rebondir.
Maître Bonnet.
Il peut y avoir effectivement une sortie simple, si les deux sont d'accord, il peut y avoir une revente tout simplement de l'appartement. S'il y a un emprunt qui a pu grever l'achat, on rembourse l'emprunt et ça permet effectivement d'éviter des endettements au long terme pour chacun des indivisaires. Et s'il y a
a un solde, c'est-à-dire s'il y a un gain au regard du paiement de l'emprunt, eh bien, effectivement, chacun peut partager le solde entre eux. Ça peut être un des moyens faciles et immédiats. Sinon, effectivement, il faut recourir dans les conditions qui vous ont été exposées par ma consoeur.
Alors, c'est vrai que la présence du notaire, elle est indispensable quand il y a un des deux concubins qui souhaite garder le bien.
Oui.
Et dans ce cas-là, effectivement, le notaire calculera la part qui restera due à l'autre.
Bon, parfait. Ben, vous avez été très clair. Hein. Voilà. Alors, deuxième question. Qui veut répondre? Maître Bonnet, peut-être.
Oui,
alors, on parlait justement de mariage, de contrat de mariage. Mais alors, est-ce qu'il existe des contrats de concubinage? C'est-à-dire, c'est vrai que quand on fait un achat comme ça, est-ce qu'il faut le garder? Il faut garder les factures? Est-ce qu'il faut dire ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à nous deux? Y a-t-il des contrats de concubinage? Est-ce que ça existe?
Alors, le contrat de concubinage en lui-même n'existe pas. Vous pouvez toujours effectivement faire un pacte. C'est le principe de l'union libre, sachant que le pacte n'est pas uniquement ne vise pas uniquement les cas d'un couple amoureux. Ça peut être un couple entre un frère et sa sœur. Effectivement, dans un but purement fiscal et notamment dans le cadre s'il n'y a pas de concubins et d'enfants, ça peut être aussi un moyen pour les droits de succession. Mais le contrat de concubinage en lui-même n'existe pas. Ça n'est que en cas de litige et de difficulté sur les conditions du partage des biens qui ont pu être acquis en eux-mêmes que la question de la preuve et de savoir qui a payé quoi va se poser. Donc il n'existe pas de contrat de concubinage. Sauf si vous souhaitez faire effectivement un pax, et là, vous pouvez aller voir un avocat, bien évidemment, qui peut vous faire un contrat en bonne et due forme, avec des précisions extrêmement vastes sur les conditions de partage, sur l'existence d'un bien à acquérir, parce qu'on n'est pas obligé d'acquérir moitié-moitié, on peut acquérir 60-40, 80-20, et bien évidemment, en ce qui concerne, bien sûr, la sortie du concubinage, et la fin du pax, mais sinon en lui-même il n'y a pas de contrat de concubinage où on organiserait à l'avance les biens ou les droits sur les enfants, ça n'existe pas en dehors du pax.
Voilà, donc le pax et bien sûr le mariage, mais sinon concubinage, pas de contrat. Voilà, et bon, on va se retrouver dans quelques instants avec Maître Chamard Kabibel et Maître Bonnet pour d'autres questions. À tout de suite. Et tout de suite, nous reprenons notre émission avec nos avocats, Maître Bonnet, Maître Chamard Kabibel. Alors, voilà, une autre question auditeur. Donc, on a parlé tout à l'heure, bien sûr, de ce fameux pax nouveau venu, puisqu'avant, on parlait que de mariage. Vous savez à peu près de quand ça date, le pax? Ça fait quelques années quand même que c'est en...
C'est une dizaine d'années.
Oui.
Il faut savoir que le pax, c'est un contrat qui est conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Alors, la question de l'auditeur était
avantage inconvénient
voilà,
pax
en cas de en cas de séparation. Le pax, c'est un contrat. Et en cas de séparation, effectivement, on peut rompre le contrat à tout moment. Il suffit d'aller voir un huissier pour faire délivrer un acte qui signifie la rupture du pax. Et comme conséquence, nous avons uniquement, conséquence de la séparation, nous avons uniquement effectivement la possibilité de demander, là on revient sur les règles du code civil, les règles légales, de demander des dommages et intérêts si on estime la rupture abusive. Vous vous doutez bien que le mariage en cas de séparation, ça n'a rien à voir, puisque effectivement nous avons toutes les règles qui concernent le mariage et également le divorce, et là nous basculons sur effectivement la dissolution du mariage en matière de divorce.
Ben alors, est-ce qu'il y a des avantages? Enfin, d'après vous, quels sont le pax par rapport au mariage? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Donner des conseils?
Moi, je reste convaincue que la meilleure protection, je dirais, est le mariage, parce que nous sommes entourés par bon nombre de règles, et que le pax, c'est uniquement un contrat qui vise des règles purement matérielles. Ma consoeur, Maître Bonnet, vous a expliqué tout à l'heure en matière de droit succession, mais ça s'arrête là. C'est vrai que la meilleure protection, ça reste quand même le mariage.
Voilà. Alors, si on veut justement contracter un pax, il faut aller où? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut aller au greffe du tribunal d'instance, prendre rendez-vous. Vous serez reçu par la greffière du tribunal d'instance qui, effectivement, enregistrera votre pax.
Tout simplement, là, il n'y a pas de cérémonie. Enfin, on peut faire une cérémonie chez soi si on veut. Mais je veux dire, là, il n'y a pas, rien d'autre à faire.
Il n'y a rien d'autre à faire. Il faudra effectivement, il faut prendre rendez-vous avant au greffe du tribunal d'instance. Elle vous demandera un certain nombre de documents qu'il faudra effectivement amener. Vous serez convoqué et effectivement, elle enregistrera votre PACS.
Voilà.
Par contre, Maître le PACS, ça peut être aussi un contrat beaucoup plus complexe où les gens qui ont un patrimoine personnel et qui souhaitent effectivement soit le protéger, soit au contraire le partager. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire un véritable contrat, on va dire patrimonial entre guillemets, où vous allez organiser effectivement les biens et les conditions dans lesquelles vous souhaitez qu'elles soient partagées ou alors au contraire qu'elles puissent revenir à l'autre partie du PACS en cas de décès. Et dans ces cas-là, vous pouvez aller voir bien sûr un avocat ou un notaire.
Alors, comme vous l'a dit ma consoeur, le PACS y produit des effets sur les droits sociaux et salariaux, sur le bien, sur le logement des partenaires et en matière fiscale. Par contre, aucun effet sur le nom et aucun effet sur la filiation, bien entendu.
Voilà. Alors oui, les personnes qui se PACS et qui ont un enfant, est-ce qu'il y a plus, c'est intéressant ou pas, ou là aussi?
Alors concernant les enfants, on revient aux règles qui concernent également les concubins, c'est-à-dire que dès lors que il y a séparation et que les ex-concubins ou paxés ne sont pas d'accord sur les règles et sur les modalités qui vont concerner les enfants, il faudra par l'intermédiaire d'un avocat bien entendu saisir le juge aux affaires familiales pour que ce dernier statue sur l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la pension alimentaire, les allocations familiales.
Voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui donc on parle de notre sujet avec nos avocats, sujet donc séparation de deux personnes, conséquences sur les enfants, le patrimoine. Alors oui, le PACS, on a vu tout à l'heure, ça peut être deux personnes, mais pas spécialement qui vivent conjugalement, j'allais dire. On parlait de frères et sœurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir de parents, de père-fils, c'est possible? Comment que ça se met?
Ah non, pas quand il y a une filiation.
Pas quand il y a de filiation.
Effectivement, c'est surtout, ça peut être, comme on l'a dit, des personnes de même sexe qui vivent ensemble ou qui n'ont pas forcément de relation amoureuse, mais qui souhaitent partager effectivement leur vie. Et puis, ça peut être des frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas de descendance, je l'ai déjà dit. Et puis, ça peut être une aide matérielle qu'on propose à quelqu'un, effectivement, qui est en difficulté.
Voilà, c'est un contrat entre deux personnes.
Exactement, il n'y a pas de conditions de vie commune.